Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon, puis bientôt ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade, écrivait Julien Green. Eh bien, je m'appelle Clotilde Seuil et je vous propose de vous évader par la fenêtre de votre choix, en fait, à cette émission à livre découvert, à laquelle je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à cette émission Un livre découvert, écoutez, Canal M et plus généralement Vues et Voix va s'offrir son moment de poésie. À elle, grâce à Christian Bergeron, que j'ai, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais moi je l'appelle un poète sur mesure. On va faire connaissance avec Christian Bergeron. Je reçois aussi, en fait, c'est un bien grand mot, par téléphone, nous allons nous entretenir avec Gérald Miller, qui est non-voyant, qui est un abonné du SQLA, qui a lu pour nous L'Orangerie de Larry Tremblay. On va revisiter Agaguc de Yves Thériault. Et puis je reçois aussi en studio Jocelyne Blouin, qui a fait, comme on le la pluie et le beau temps pendant si longtemps, mais qui est devenue maintenant lectrice bénévole et on la remercie ici chez Vues et Voix. Elle viendra nous parler également d'un bouquin. On va écouter un extrait du livre Le Chardonneret, l'énorme succès Le Chardonneret de Madame Donna Tartt qui vient de sortir il y a quelques semaines maintenant. Il est disponible en version audio au SQLA. Et la semaine prochaine, je vais recevoir Lorraine Pintal qui a adoré ce bouquin et je vais recevoir Marie-Christine Morat qui l'a lu pour vous ici même chez Vues et Voix, qui l'a un peu moins aimé. Alors comme ça, on verra ce que les deux ont à nous dire à ce sujet. Et puis, à la fin de l'émission, nous allons écouter Christian Bergeron qui va nous faire la lecture d'un poème qu'il a rédigé pour nous, pour vous, sur Vues et Voix pendant toute la durée de l'émission. Et nous finirons bien évidemment, comme toutes les semaines, par quelques titres, quelques nouveautés en rafale.
Chapitre 1. L'invité spécial.
Et l'invité spécial, c'est vous, Christian Bergeron. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Je suis très contente de vous retrouver. Il fut un temps où on s'était connus dans la Grande Tour, à côté, là, à l'époque où j'animais, entre autres, des nuits littéraires. Vous étiez venu très gentiment pour nous... Voilà, hein,
parce l'émission que... Les volets clos.
Les volets clos, exactement. Il se souvient de ça. Et Le goût de la plume. À l'époque, je ne savais pas que c'était un petit peu scabreux comme expression. Mais bon, moi, j'avais appelé mon émission comme ça. Et puis, je vous ai retrouvé cette année... et c'est pour ça que je vous ai invité. Je suis allée faire un tour, comme plusieurs milliers de personnes, et mon Dieu, quelle bonne idée de faire ça en été, aux correspondances d'Eastman. Et à ces correspondances, donc, j'ai vu à un moment donné ce bonhomme que je me suis dit, mais je connais cette tête. Et je me suis approchée, je me suis demandé ce que vous faisiez, et j'ai compris que vous faisiez ce que vous allez nous expliquer maintenant. Oui. Que faisiez-vous aux correspondances d'Eastman?
Ben, c'est-à-dire l'été dernier, c'était ma troisième participation aux correspondances d'Eastman. Donc, j'ai commencé à monter une espèce de tradition autour d'événements ou d'installations littéraires. Donc, l'été dernier, mon projet s'appelait le Bureau des poèmes. Donc, je me suis tout simplement installé sur place, sur la rue principale d'Eastman, sous un arbre. Et puis, j'offrais des poèmes sur demande aux gens qui passaient, donc à tous les visiteurs qui étaient intéressés. Donc, j'avais préparé des petites cartes avec des images fabriquées par moi-même à partir de trucs ramassés un peu à gauche, à droite. Et puis, les gens choisissaient selon leur inspiration. Et puis, soit à partir de l'image, soit à partir de leur inspiration à eux. Ou
de leur vécu, par exemple.
De leur vécu ou d'un thème qui les intéressait. Ben, les gens me donnaient un thème. Et puis, moi, je leur écrivais un poème sur le champ. Alors, j'en ai fait 68 comme ça au cours de la fin de semaine. Ça a été assez occupé, mais ça a été toute une expérience, vraiment.
Est-ce qu'il y a des fois où on a peur de la page blanche? Est-ce que ça vous est arrivé au cours de votre fin de semaine? Vous vous êtes dit, oh mon Dieu, que ça ne m'inspire pas, cette affaire-là?
Ou... Bien, étrangement, pas vraiment. C'est-à-dire que c'est sûr que des fois, il y a eu des blocages. Des fois, évidemment, si je les relisais aujourd'hui, tous ces poèmes, ce qui n'est pas possible parce que je les donnais aux gens. Donc, c'est vraiment dans l'instantanéité. Il y en a certainement certains aujourd'hui que je trouverais peut-être pas très intéressant, mais bon, ça fait partie du jeu. Il faut... c'est du premier jet, aucune rature, rien. Malgré tout, ça permet un niveau d'émotion assez élevé, tout ça. Et puis, ça a été très fort en émotion cette fin de semaine-là. Et puis, pour ce qui est de la page blanche, ben, c'est sûr qu'il y a eu des moments où c'était difficile d'avancer, mais je me laissais porter par ce que je percevais chez les gens. Et puis, il y avait toujours un filon à trouver quelque part.
Christian Bergeron, évidemment, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous êtes un homme de mots. Racontez-nous un peu votre parcours en tant qu'auteur.
En tant qu'auteur, quelqu'un qui écrit depuis longtemps. J'ai publié quelques nouvelles dans des revues, mais sans plus, pas de recueil de poésie ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est ça. En parallèle des nouvelles, surtout, que j'ai écrites jusqu'à présent, j'écris un peu de poésie. Et puis, surtout, j'ai depuis ces dernières années, je crée ces petits événements ou installations poétiques-là parce que je trouve ça très riche d'écrire sur le vif, on peut dire, ou d'écrire en ayant la réponse des gens tout de suite.
Oui, c'est ça.
En ayant le contact direct avec les gens.
Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des moments d'émotion, des moments drôles, mais des moments aussi d'émotion.
Mm-hmm. Oui, c'est ça qui fait toute la valeur, le charme de cette expérience. Il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, vraiment.
Jocelyne Blouin, vous qui êtes là à la table, si par exemple vous aviez eu... Bonjour d'abord, bonjour. Ça me va. Si vous aviez eu un jour à rencontrer Monsieur Bergeron, est-ce qu'il y aurait eu un thème spontanément qui vous serait venu à l'esprit? Bonjour Monsieur Bergeron, écrivez-moi un poème sur tel sujet.
Ah oui.
Ah oui, ben oui.
La vie.
Allez, hop, au hasard, un mot. Oui.
Non, mais c'est pourquoi pas. Je veux dire, j'ai la fin de semaine que j'ai passé à Eastman, j'ai vu de tout. J'ai vu d'une petite fille qui m'a demandé d'écrire un poème pour son toutou, jusqu'à une dame qui est venue me voir, qui en voulait un pour sa sœur qui était mourante et puis qui voulait lui lire comme cadeau d'adieu, finalement. Donc, c'était... La charge émotive était très variable. Il suffit d'aller chercher dans ce que la personne nous demande, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on peut retrouver de semblable dans sa propre vie, puis dans sa propre expérience. Puis moi, c'est de là que je partais pour créer les textes.
Ce qui est dommage, c'est que finalement, comme vous dites, ensuite vous les écrivez, puis vous les laissez partir, ces petits bébés-là, plein de mots, là, si bien que ça ne pourra jamais être publié, ces affaires-là.
Non, effectivement, il n'y a pas de traces. Et puis,
mais en même temps, ça
ce
ça
sont
son
les
chance.
Règles du jeu. Ouais,
mais alors, quand est-ce qu'on va pouvoir lire du Christian Bergeron chez Vues et Voix?
C'est ça, il va falloir patienter un petit peu. Comme je disais, j'ai fait plusieurs nouvelles, donc j'ai un recueil de nouvelles en préparation.
OK, d'accord.
Alors, quand sera-t-il fini? Je ne sais pas encore. Ça fait déjà très longtemps que ça traîne, mais c'est ce que je peux promettre de mieux pour le moment.
En tout cas, avec la belle voix que vous avez, j'espère que vous viendrez nous lire ça ici même dans nos studios vous avez visités.
Avec plaisir.
Vous savez, vous vous êtes prêté au jeu, Christian. Tous ceux qui viennent ici, qu'ils soient auteurs ou non, je leur demande toujours d'arriver avec un livre ou deux sous le bras dont ils auraient envie de nous parler. Je précise pour les auditeurs qui nous écoutent que, évidemment, je vais vérifier que ce livre-là est bien disponible soit au SQLA, soit à la bibliothèque de l'INSEA.
Oui.
Pour être sûr qu'on ne parle pas d'un livre que les gens ne puissent pas écouter, ce serait vraiment absurde. Alors, vous êtes venu avec deux bouquins.
Oui.
On parle de un des deux?
Je commencerai peut-être par un des deux et puis si on a le temps, on verra le deuxième. Là, mais c'est ça. Donc, vous m'aviez demandé un livre qui m'avait touché.
Oui.
Donc, celui-ci m'a touché deux fois parce que je l'ai relu tout récemment. Et ça s'appelle « Éloge du silence » de Marc de Smet. Donc, Marc de Smet est un... Moi, ce que je connais de lui, c'est que c'est un praticien du zen, donc de la méditation zen, et puis un homme très intéressé par la spiritualité. D'ailleurs, il dirige ou a dirigé la collection Espace Libre chez Albin Michel, dans laquelle ce livre est publié, mm-hmm. qui est une collection qui parle justement des diverses traditions spirituelles du monde. Donc, éloge du silence, bien, c'est sûr que ça peut être un cliché de dire que, bon, le silence est un refuge dans notre vie trépidante et tout ça, mais lui va beaucoup plus loin que ça. C'est sûr qu'il y a de ça, évidemment, et il nous parle de la richesse, la valeur du silence, mais il l'aborde sous tellement de points de vue différents que ça construit vraiment une espèce d'ensemble vraiment polyphonique, si on peut dire. Ouais, en parlant du silence, ça fait drôle, mais... c'est vraiment un très beau livre pour prendre le temps de penser au silence, de réaliser l'importance du silence, peut-être de le pratiquer un peu, que ce soit par la méditation ou par autre chose, mais c'est ça, retrouver un peu l'importance. Puis de toute façon, c'est quelque chose que tout lecteur connaît bien, malgré que ça fait réfléchir, parce que si on pense à des livres qui sont lus, mais là, on évacue un peu la dimension silence.
C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis toujours aux lecteurs, n'oubliez pas de faire des silences, parce que c'est comme en musique, ce sont des points d'orgue. Mm-hmm. C'est comme si le mot avait une résonance. N'oubliez pas parfois de faire un petit silence, pas trop long, parce que sinon, ça inquiète tout le monde, mais, mais vous avez raison de dire. Parce qu'on trouve, honnêtement, j'ai fait des recherches, hein. J'ai pas trouvé grand-chose sur ce monsieur de Smet. Je voudrais, si vous me le permettez, que je l'épelle pour nos auditeurs. Donc, Marc, évidemment, de Smet en deux mots, et Smet, ça s'écrit S-M-E-D-T. Mmh. Et ça, c'est sorti en version audio en 2013, mais ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, ce livre est constamment réédité depuis 20 ans. Ah. Il y a toujours une demande. Mmh. Vous avez un petit extrait à nous proposer.
Oui, ben c'est ça justement, c'est intéressant parce que ça parle de silence, de musique et d'être aveugle. Et puis, je ne l'avais pas choisi en sachant que je venais ici. C'est vraiment un passage qui m'avait plu beaucoup. Et puis, ben voilà. Donc, ça raconte une journée où l'auteur, avec un ami, va rencontrer un musicien. Je me souviendrai toujours de cette rencontre, il y a quelques années, dans un Iran qui n'était pas encore celui des ayatollahs, d'un musicien aveugle considéré comme maître soufi. Jean During, qui s'attachait déjà à retrouver en Orient les diverses formes musicales en voie de disparition, me l'avait présenté à l'école de musique populaire Méli. Je n'arrivais pas à donner d'âge à cet homme au visage si doux, au sourire si gentil, qui était assis sur une chaise et vous fixait de ses yeux vides. Jean me dit « Il ne veut pas parler, mais nous jouer quelque chose. Cela remplacera tous les discours. » Nous passâmes dans une petite pièce attenante. L'aveugle prit son santour sur ses genoux, instrument trapézoïdal dont on frappe les 72 cordes avec de fines baguettes de buis. Il joua un premier air très beau. À la fin de ce morceau, après un silence de quelques secondes, il releva la tête et nous remercia d'avoir si bien écouté. Et il enchaîna immédiatement sur un second air, étourdissant de virtuosité. Le premier morceau avait comblé notre sens esthétique, le second transporta nos âmes et nous fit, littéralement, monter en extase. Ce fut un moment inouï, que je ne peux exprimer ni raconter, sinon en disant qu'il nous fit sauter l'esprit comme un bouchon de champagne, qu'il nous éclata plus fort que le plus puissant des hallucinogènes. Septième ciel. Dans le très long silence qui suivit, nous nous regardâmes, Jean et moi, souriant, sur la même longueur d'onde, des cernes envahissant nos visages. Nous étions éblouis par cette musique des sphères. Nous avions vu la puissance du son. Ensuite, un peu plus loin, il dit, juste quelques lignes, « Il est connu que la perception d'un aveugle est surmultipliée. Cet homme-là était encore allé au-delà de cette multiplication. Sa musique touchait au silence divin. »
Je rappelle, merci beaucoup Christian Bergeron, je rappelle le titre de ce livre, Éloge du silence de Marc de Smet, disponible au SQLA bien sûr. Il ne nous reste que le temps de maintenant présenter ce que vous allez faire pour nous. C'est que vous êtes arrivé assez tôt et vous avez visité Vues et Voix, vous avez vu les bénévoles rentrer dans les cabines de son, vous avez senti l'ambiance, l'atmosphère et je vous ai demandé de relever le défi maintenant d'aller vous mettre un petit peu à l'écart et de nous écrire un poème sur Vues et Voix, pour Vues et Voix, pour les bénévoles, pour les usagers, pour ceux qui nous écoutent. Mmh. Et d'ici peut-être quoi, 35-40 minutes, je vais vous convier à revenir à l'émission pour nous lire ce que vous aurez écrit.
Oui, d'accord.
Ça vous va?
Oui.
Avez-vous le trac?
Oui.
Mais moi, je n'ai pas peur, parce que je sais ce qu'il est capable d'écrire. Merci beaucoup, Christian Bergeron. On se retrouve dans la deuxième demi-heure de cette émission.
Oui, à tout à l'heure.
Chapitre 2. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour, Monsieur Miller, Gérald.
Bonjour, Clotilde.
Comment allez-vous?
Assez bien, merci. Sous une réserve, c'est que j'avais dans mon agenda que c'était le 2 octobre. Mais vous savez, c'est quasiment merveilleux parce que je ne pourrais pas dévoiler la fin du livre. Je ne l'ai pas lu.
Ah, bon.
J'ai lu le livre, mais pas la fin. Il me restait la fin.
OK, d'accord. Alors déjà, de toute façon, vous en faites pas, parce que là, on n'est même ni le premier ni le deux, on est rendu le 15, vous savez, alors tout augmente. Alors ne vous en faites pas pour ça. Écoutez, je suis contente qu'on ait pu se parler et que vous ayez été disponible. Ça fait longtemps pourtant, Gérald, que vous vouliez me parler.
Ça fait longtemps qu'on en parle.
De ce livre-là, mais malheureusement, il n'était pas disponible. Alors maintenant, ça y est, il l'est. J'en ai même diffusé un petit extrait la semaine dernière en guise de quoi? De bande-annonce, hein, ce serait plus français,
oui,
qu'en guise de
ça.
Teaser. Et j'avais donc hâte que vous veniez nous en parler de cette orangerie, qui est un livre assez bouleversant, troublant.
Un livre de Larry Tremblay.
C'est ça. Un gars du Saguenay, d'ailleurs, il y a quelques semaines, il était au salon du livre du Saguenay où il a reçu deux prix, en plus des prix du libraire du Québec en 2014 pour le roman québécois. Parlez-nous de l'orangerie.
Ça se passe dans un pays manifestement arabe, ou oui, je dirais manifestement arabe, mais qui n'est pas identifié. C'est un livre qui tourne autour d'une famille où on a le père, la mère et deux fils. Mm-hmm. Un des fils apprend qu'il a une maladie mortelle qui ne lui laisse que un an à vivre maximum, et l'autre est en pleine santé.
Mm-hmm.
Et
ils sont jumeaux, hein? Ils sont jumeaux, hein? Non, parce que je pense que c'est un...
Oui, oui, oui.
Voilà, plus tard, ça va devenir intéressant dans la trame.
Oui, d'accord. Et ce qui se passe, c'est que arrive au village où le père possède une orangerie, mm-hmm. d'où le titre.
Mm-hmm.
Donc, arrive au village des recruteurs qui cherchent un enfant dans le but d'en faire un commando suicide.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, les parents se consultent. Mm-hmm, et puis, mm-hmm, bien mm-hmm. sûr, il n'y a pas un parent qui est vraiment
qui va accepter
intéressé
ça,
à
mais
ça.
Non. Mm. Mais parce qu'ils arrivent, ils arrivent carrément avec une ceinture, ce qu'on appelle une ceinture. On s'entend qu'on parle vraiment d'une ceinture d'explosifs.
C'est
et
ça.
À ce moment-là, on demande aux parents de leur donner un enfant. C'est ça, pour mettre autour de la...
De la taille.
De la taille.
Et même s'ils ne veulent pas désigner un de leurs fils, il n'en reste pas moins qu'ils sont l'objet de grandes pressions.
Oui.
On peut comprendre.
Oui.
Et le père et la mère finissent par diverger d'opinion.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que la mère dit, ben écoute, s'il le faut, il le faut, mais un tel est sévèrement malade et va nous quitter de toute mm-hmm. façon d'ici un an. Mais le père, lui, n'est pas du tout de cet avis-là. Parce que lui, dans sa vision de la religion,
mm-hmm.
se dit, si je sacrifie à mon Dieu celui de mon fils qui est malade, c'est pas un vrai sacrifice.
Ouais.
Il faut que je sacrifie l'autre qui est bien portant.
Oh.
De telle sorte que, à l'intérieur d'un an, il se trouverait famille sans enfant.
Oh là là.
Après avoir perdu les deux enfants. Et ça, cette perception de l'individu est très contraignante pour
mm-hmm.
lui,
mm-hmm.
parce qu'en réalité, il ne peut pas, en son âme et conscience, faire semblant de faire un sacrifice, alors qu'en réalité, c'est un peu comme s'il trichait avec sa conscience.
Oui, 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 oui.
Et là, ça devient déchirant. tout au long du livre, il y a diverses péripéties, on ne racontera pas tout, mais c'est sûr que ça pose des questions extrêmement troublantes.
Ben surtout en ce moment où on parle beaucoup de l'État islamique et tout ça, et de tout ce que ça véhicule, je pense que c'est marrant. Et, ben c'est marrant, non, c'est vraiment pas approprié.
Non, c'est pas vraiment
C'est ça. La semaine dernière, nous faisions le parallèle un petit peu entre l'Orangerie de Larry Tremblay et d'un autre livre dont il était question à cette émission, qui est de Sorge Chalandon, Le quatrième mur, et qui se passe aussi quelque part au Moyen-Orient. Est-ce que vous l'avez lu, non, des fois, non?
Celui-là, non.
Non. Mais c'est quelque chose que je vous recommande. J'ai lu quelques critiques sur ce livre dont vous nous parlez, L'Orangerie de Larry Tremblay. Dans Châtelaine, on disait une écriture aussi sobre que convaincante, des images puissantes, un livre essentiel.
C'est très convaincant, effectivement. Oui, hein? C'est écrit avec, je dirais, simplicité. Mm-hmm. C'est pas de la poésie en tant que telle, bien que la description des paysages, des images de l'orangerie,
c'est très puissant. Hein.
C'est quand même peint avec précision.
Oui. Je vous proposerais, comme on a un petit peu de temps, restez avec nous, ne raccrochez pas. Je voudrais faire réentendre à nos auditeurs, peut-être l'ont-ils raté la semaine dernière, un extrait du livre. C'est le tout début du livre tel qu'il a été lu ici chez Vues et Voix. Ne raccrochez pas, Gérard.
Je reste à l'écoute.
On écoute ça. Ça, c'est pas du tout ce que j'attendais.
Si Ahmed pleurait, Aziz pleurait aussi. Si Aziz riait, Ahmed riait aussi. Les gens disaient, pour se moquer d'eux, « Plus tard, ils vont se marier. » Leur grand-mère s'appelait Shannon. Avec ses mauvais yeux, elle les confondait tout le temps. Elle les appelait ses deux gouttes d'eau dans le désert. Elle disait « Cessez de vous tenir par la main, j'ai l'impression de voir double. » Elle disait aussi « Un jour, il n'y aura plus de gouttes. Il y aura de l'eau, c'est tout. » Elle aurait pu dire, « Un jour, il y aura du sang, c'est tout. » Ahmed et Aziz ont trouvé leurs grands-parents dans les décombres de leur maison. Leur grand-mère avait le crâne défoncé par une poutre. Leur grand-père gisait dans son lit, déchiqueté par la bombe venue du versant de la montagne où le soleil, chaque soir, disparaissait. Quand la bombe est tombée, il faisait encore nuit. Mais Shannon était déjà levée. On a retrouvé son corps dans la cuisine.
Gérald, vous êtes là?
Je suis là et on voit que ce n'est pas un livre pour les gens dépressifs.
Non, c'est un peu le genre, vous lisez ça, après vous mettez une chanson de Barbara, puis là vous dites, bon, il est où le pont Jacques Cartier? Non, mais par contre, je pense que c'est un livre important. Écoutez,
livre qui raconte la guerre une drôle de guerre.
Mais oui, puis écoutez, il n'a pas été primé comme ça partout pour rien. Je pense que c'est un livre, vous savez, Larry Tremblay quand même, c'est un metteur en scène aussi. Il a écrit des pièces de théâtre. C'est lui qui avait écrit Dragonfly. C'était, comment il s'appelle, Monsieur Millet, qui avait joué ce rôle-là très, très longtemps au théâtre. Enfin, bref, c'est pas n'importe qui, monsieur.
Non, il a du kilométrage derrière lui, là.
Oui, il a quelques heures de vol, comme on dit, effectivement.
Oui, c'est ça.
Gérald Miller, c'est toujours agréable de vous parler. J'espère qu'on vous retrouvera à l'émission d'ici quelques semaines pour nous présenter un autre bouquin. Qu'en pensez-vous?
C'est assurément possible. Et je malgré que ce livre soit un petit peu sombre, je le recommande quand même à tous les gens, tous ceux qui veulent comprendre cette drôle de guerre, finalement.
C'est ça.
Mais la comprendre à l'intérieur de la conscience des gens et des principaux intéressés.
Oui. Ben écoutez, moi, je pense que c'est clair.
Instructif,
oui. Vous avez raison. Merci, Gérald.
Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous parler et à la prochaine.
À la prochaine fois. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Vous pareillement.
Au revoir.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
c'est l'heure du classique de la semaine revisité. J'aime bien, généralement, ça peut être français ou international. Et puis, une fois sur deux, je reviens sur un classique québécois. Et j'ai décidé de revenir cette semaine sur Agaguk de Yves Thériault. Jocelyne Blouin, l'avez-vous lu?
Oui.
Ah.
S'il y a très longtemps.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est même pour ça que j'ai rentré ce genre de rubrique dans cette émission. C'est pour qu'à chaque fois, là, les gens me disent « Oui, je l'ai lu, mais il y a très longtemps. » C'est justement ça. Pour qu'on se remette ça en mémoire. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir? Est-ce que ça vous avait troublé, si vous vous en souvenez ou...
Non. Ça ne m'a pas particulièrement marqué, non.
Non. Parce que c'était quand même, à l'époque, il faut rappeler que ça a été publié en 1958 et que dès l'instant que ça a été publié, en France d'ailleurs, comme au Québec, hein, c'est sorti en même temps, ça a été quasiment imposé dans toutes les écoles et les cégeps. Mmh. Et on dit qu'il y a des gens qui ont été littéralement traumatisés, en tout cas marqués par ce livre. Parce que c'est vrai que pour l'époque, il y avait des scènes extrêmement crues, extrêmement violentes. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on découvrait un peu cet univers-là du Grand Nord, où, paraît-il, d'ailleurs, Yves Thériault n'avait jamais mis les pieds.
Ah, mais là, vous m'apprenez quelque chose.
Oui, au moment où il l'a écrit. On parle ici au conditionnel, mais et il paraît aussi qu'il aurait écrit ça en seulement 2 semaines de temps. Ce livre-là. Bon, rappelez peut-être rapidement l'histoire. Agaguk, héros solidaire, 18 ans, qui quitte son village avec Iriouk, la femme qu'il aime. Ils partent s'établir un peu plus loin sur la toundra pour fonder une famille. Lorsqu'un jour Agaguk retourne parmi les siens, il est trompé par un trafiquant. Il le tue et il se sauve. Alors évidemment, il y a ensuite les Blancs qui se mettent à sa poursuite et qui le cherchent et qui veulent... ils cherchent le coupable. À l'époque, on avait un petit peu reproché à monsieur Yves Thériault de les décrire un petit peu comme des êtres à peine plus évolués que des animaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Puis finalement, après, on s'était dit oui, mais par contre, on sentait quand même bien... Avec cet alcool qui détruit, avec ce mépris ambiant autour d'eux, particulièrement des commerçants qui les trompent et qui les volent sans vergogne. Après tout, il y a quand même une réalité là qui s'imposait dans ce livre-là. Je ne sais pas si les images commencent peut-être à vous revenir un petit peu, Jocelyne. Moi, je sais que j'avais été très troublée par ce livre-là.
C'est tellement loin. J'ai lu ça au secondaire. J'étais adolescente.
C'était le 6e livre d'Yves Thériault. Hein. Il me reste un petit peu de temps, une petite minute. Et qu'est-ce qu'on nous disait ici? Ah oui, ben c'est ça, qu'il n'avait jamais... Ah oui, il paraît que sa femme avait énormément collaboré à ce livre-là. Et à l'époque, il y avait eu dans le roman canadien-français du 20e siècle une critique de Régent Robidoux qui disait « Roman d'une extraordinaire puissance, Agaguk nous apparaît comme un point de rencontre quasi parfait entre le caractère fondamentalement dynamique du récit et la mise en œuvre d'une technique de narration » susceptible de dépeindre les personnages dans leur réalité existentielle, avait-on écrit en 1966. On va faire une toute petite pause et on se retrouve tout de suite après. C'est Clotilde Seil au micro de Canal M à l'émission À Livre Découvert.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seil et ses invités.
On a le vice d'une vertu, ce qu'on mérite rien de plus, qui brille, scintille, qui se voit, etc. Tant et plus, sans mesure au superflu, de chic, de luxe et d'éclat, etc. Et pour la galerie, tout pour la galerie, on ne trouve ici rien à sa taille. Oh, oh, pour la galerie, tout pour la galerie, puisque l'important n'est qu'un détail. Et vice-versa.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
qui aujourd'hui est Jocelyne Blouin. Bonjour Jocelyne.
Bonjour.
Et c'est pas par hasard si on a écouté la petite musique là avant. Ça s'est tiré, c'est extrait d'une comédie musicale sur le château de Versailles, sur tout ce qui se passe, toutes ces magouilles, ouais. Toutes ces histoires d'amour, tout, en tout cas, bref, on est vraiment dans les alcôves de Versailles. Et vous nous amenez, Jocelyne, mais avant. Quand même, avant. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu, parce que oui, vous êtes bien la Jocelyne Blouin, qui avait pendant combien de temps fait la présentation de la météo ?
33 ans.
33 oui. ans. Et vous me disiez hors antenne que d'abord vous êtes météorologue, que vous oui. avez accepté ça parce que Radio-Canada mettait à votre...
Radio-Canada m'a permis, particulièrement avant Internet, de me fournir, évidemment qu'ils ne pouvaient pas... installer un bureau météorologique à Radio-Canada, c'est certain, mais de me fournir au moins un minimum d'informations pour que je puisse me faire une prévision. Là.
Alors, c'était quoi? Des cartes?
Des cartes, des analyses, une image satellite qui était vieille, qui avait deux, trois heures, mais quand même, c'était mieux que rien. Ça donnait l'idée globale. Mm-hmm. Et on était les premiers à Radio-Canada, d'ailleurs, à présenter une image satellite. Toutes les images satellites étaient en noir et blanc. Et notre service de graphisme, là, ils ont fait des masques et on a réussi à la présenter en couleur.
Ah oui?
Ah oui. On était très bons.
Et vous aimez encore ça? Vous aimez
oui,
encore?
Oui, absolument, hein? Absolument.
Est-ce que vous vous amusez encore parfois, genre à regarder par la fenêtre et à vous faire une petite prévision
mais
pour la journée?
Mais c'est pas en regardant par la fenêtre qu'on
non,
se fait une
mais
prévision.
Je sais. C'était juste une image.
Ça serait trop simple.
C'était juste une image. Mais donc,
oui, je me fais des prévisions quand j'en ai besoin.
Oui.
Si je veux aller jouer au golf dans deux jours, je veux réserver, je vais me faire une prévision pour dans deux jours, je me la fais.
Alors parlons livres, oui. Jocelyne, parce que depuis maintenant un an, je le disais, vous lisez maintenant aussi pour nous, chez Vues et Voix. Et le premier livre que vous avez lu, c'est celui dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, L'échange des princesses, de Chantal Thomas.
Oui.
J'ai été... je suis tombé en amour.
Ah oui.
C'est, vraiment, moi, je n'avais jamais rien lu d'elle. Premièrement, elle écrit merveilleusement bien. C'est un plaisir. C'est incroyable. Et c'est un roman historique. Au mm-hmm. départ, j'aime les romans historiques. Donc,
j'étais
contente.
Vous étiez bien tombée.
Oh, j'étais heureuse. Mais elle écrit d'une façon extraordinaire. Vraiment. Vous avez l'impression, en lisant le livre, là, On est avec elle, les princesses, là, vraiment.
Ah oui.
Elle nous décrit la vie. D'abord, ça se passe entre la France et l'Espagne.
Ah oui.
C'est le roi français qui a eu la bonne idée pour ne pas que l'Espagne entre en guerre contre eux, bon, etc. Ils ont dit, garde, c'est pas compliqué. Ou s'ils ont besoin d'aide, qu'ils puissent en appeler. Mm-hmm. Donc, ils ont dit, garde, c'est merveilleux. Nous, on a une princesse qui n'est pas mariée, qui est en état de se marier, qui est d'âge. Eux, ils ont un prince qui est d'âge également. Ils mm-hmm. ont 12-13 ans, les deux. Et ils ont, en Espagne, une princesse de 4 ans et nous avons un prince de 11 ans. Alors, échangeons nos princesses, marions nos princes. Voilà.
Oh là 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 là.
Alors, c'est ce qu'ils font. Alors, ils nous racontent, et ça, c'est... j'ai trouvé ça merveilleux. Elle nous a raconté le voyage de ses deux enfants jusqu'à mi-chemin, alors une part de Madrid, l'autre de Versailles, et ils se dirigent l'un vers l'autre et ils font un échange, ils se rencontrent mm-hmm. au beau milieu. Bon. Mais le voyage de ces enfants, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. D'abord, on apprend comment ils voyageaient à cette époque-là. Et évidemment, les routes, c'était l'horreur. Bon, je vous passe les détails. Et ensuite, leur vie dans les différents châteaux. Comment ils sont reçus, puis ensuite comment est la vie, etc.
En se souvenant qu'elles ont 4 ans et 11 ans.
Oui, elle est un petit peu plus vieille. La princesse française, mm-hmm. elle est d'âge enfanté. Elle a 12-13 ans.
Oui. Okay.
Elle est d'âge enfanté. Elle a 12-13 ans, oui.
Mais est-ce que ça va marcher, cette affaire-là?
Pas du tout.
Ah, OK, ça va être un fiasco total.
Pas du tout. Ça va aller très, très mal.
est-ce que vous me dites que ce que vous avez apprécié beaucoup, hein, c'est qu'on sent l'historienne, mais on sent l'auteur aussi. Hein,
ah,
parce
c'est
que
merveilleux.
Chantal Thomas,
mais c'est ça.
L'écriture. Hein.
L'écriture. Elle réussit à nous faire voir la vie, à travers évidemment toutes ses recherches, etc., à nous faire voir la vie que ces gens avaient à cette époque. C'est vraiment extraordinaire. Dans des détails, des choses qui finalement sont importantes, en tout cas étaient importantes pour ces princesses.
En avez-vous un petit extrait ou quelques citations?
On va prendre un extrait justement qui parle de la cour. Bon, alors c'est une des princesses qui parle. C'est la princesse française qui se retrouve en Espagne. Elle a très mal pris ça, elle. Mais en tout cas, la cour est une mécanique effroyable. Comme toutes les princesses étrangères qui arrivent, j'ai été fêtée, puis maltraitée, calomniée, blessée. Au début, nous sommes jeunes, amusantes. Certaines d'entre nous sont jolies. La cour nous caresse, a l'air de nous aduler. En fait, vampire sournois, elle nous pompe le sang. Les grossesses font le reste. La jeune épousée n'est bientôt plus qu'une pauvre chose qui se traîne et qu'on oublie. Ah, c'est dur, hein? Il y a des bouts, c'est dur. Mais en fait, c'est dur tout le long. C'est très dur.
Est-ce qu'il y a des moments d'humour ou pas du tout?
On rit. Moi, j'ai ri. À un moment donné, il a fallu arrêter l'enregistrement parce que je riais. C'est tellement bien écrit. Je vous le dis, c'est merveilleux, ce livre.
L'échange des princesses de Chantal Thomas. Ça s'écrit comme ça, se prononce Thomas, T-H-O-M-A-S. Je voudrais préciser que cette femme-là s'est fait aussi beaucoup connaître du grand public grâce à tout ce qu'elle a écrit, entre autres sur Sade, sur Casanova. Et nous avons ici, au SQLA, d'autres titres d'elle, dont... Les adieux à la reine, et ça, les adieux à la reine, c'est devenu un film, ça a été porté à l'écran. Ce sont les derniers jours de Louis XVI et de Marie-Antoinette au moment de la Révolution française. On a aussi La princesse de Montpensier, La comtesse de Tende et Le testament d'Olympe, qui sont tous les titres de Chantal Thomas qu'on peut retrouver au SQLA. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous aimeriez nous partager sur ce livre?
Je vous disais que j'aime les romans historiques, alors j'ai lu, et ça c'est Claude Canville qui m'a fait découvrir ce livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Claude Canville.
Ben oui, bien sûr.
Alors, Claude, qui lit beaucoup, m'a dit, lis, si tu aimes les romans historiques, lis Sinoué l'Égyptien. C'est deux petits livres. Ça, c'est merveilleux aussi parce que c'est finlandais. Ça a été publié en 45, en finlandais, en français en 47. Bon, ça fait longtemps. Ça a été porté à l'écran dans les années 50. Et c'est la même chose. On suit Sinoué, qui est un médecin, à travers ses voyages et en Égypte, et on apprend comment les gens vivent. Et c'est très, très intéressant.
Ce que j'espère, c'est qu'on l'a enregistré, par exemple. Parce que ça,
j'en sais rien.
C'est ça, moi non plus. Mais on va l'espérer. Sinoué, l'Égyptien, je vais aller vérifier ça aussitôt après l'émission. Si par hasard, ça ne l'était pas, faites-moi confiance, je vais demander à ce que ce le soit, ni plus ni moins, mais ce ne serait peut-être pas disponible avant plusieurs mois. Jocelyne, c'est très, très agréable de vous avoir reçu.
Merci de m'avoir invité.
Mais de rien, j'espère que dans toutes vos lectures, à un moment donné, vous allez retomber comme ça sur un coup de cœur que vous allez venir nous représenter.
Ah, ben avec plaisir.
En tout cas, ce sera très agréable de vous recevoir. Et restez là parce que je voudrais vous demander si éventuellement, justement, je vais aller jouer au golf en fin de semaine.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Ce livre-là est sûrement un des plus attendus par vous au SQLA ou à l'INCA parce qu'il a fait un tel tabac, tout le monde en parle, c'est Le Chardonneret de Donna Tartt. Eh bien, ça y est, il est arrivé depuis quelques semaines seulement. Qu'est-ce que ce bouquin, Le Chardonneret? Qui est Théo? Que lui est-il arrivé à New York? Ça, en gros, je vous raconte de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il fait à New York pour qu'il soit aujourd'hui, 14 ans plus tard, cloîtré dans une chambre d'hôtel à Amsterdam, comme une bête traquée? Qu'est devenu le jeune garçon de 13 ans qui visitait des musées avec sa mère et menait une vie de collégien ordinaire? D'où vient cette toile de maître, Le Chardonneret, qu'il transporte partout avec lui? On nous dit de ce roman qu'il est à la fois un roman d'initiation à la Dickens et un thriller éminemment moderne, fouillant les angoisses, les peurs et les vices de l'Amérique contemporaine, le Chardonneret qui laisse le lecteur complètement essoufflé, ébloui et encore une fois conquis par le talent hors du commun de Donna Tartt, qui nous avait donné entre autres le Maître des Illusions. Je ne sais pas si vous l'avez lu, non, ni l'un ni l'autre. Non. Le Chardonneret non plus. Et la semaine prochaine, j'avais envie de vous faire entendre un extrait de ce livre-là, tel qu'il a été lu par Marie-Christine Morat, bénévole ici. Et Marie-Christine, elle, fait partie des gens qui sont restés un petit peu sur leur faim par rapport au Chardonneret, alors qu'il y en a d'autres qui sont, mais alors complètement dithyrambiques. Par exemple, dans la presse, on écrivait... Le 13 janvier 2014, roman fleuve à la fois... non, c'était pas ça que je voulais vous lire. Ah oui, si. Mémérisé par l'écriture exceptionnelle de Donna Tartt, magnifiquement rendu ici par la traduction d'Edith Sunkind, Théo, comme le lecteur, se verront lancés à la poursuite de l'illusion et de l'essentiel. Préparez-vous à plonger. Alors, quand il y en a qui plongent, ils plongent, mais alors pas à peu près. C'est le cas de Lorraine Pintal, directrice du TNM, qui a, alors elle, voulu parler du Chardonneret, elle fait des triples saltos arrière. Alors, je l'ai invitée à venir nous en parler et on rencontrera aussi Marie-Christine Morat, qui a lu ce livre. Et comme je vous le disais, elle est un petit peu restée sur sa faim. Je vous propose d'écouter un extrait du... on est dans le premier chapitre ou le deuxième chapitre, donc relativement... au début du livre, lorsque justement on retrouve le héros Théo complètement paumé à Amsterdam dans une chambre d'hôtel.
Parce que j'étais gelée, malade et la plupart du temps désœuvrée, tout comme j'avais oublié de prendre des vêtements chauds, je n'avais emporté aucun livre. Je passais l'essentiel de la journée au lit. La nuit semblait tomber au milieu de l'après-midi. Je m'endormais souvent pour me réveiller à intervalles réguliers, dans le froissement des journaux en désordre. Et la plupart de mes rêves étaient troublés par cette même angoisse floue qui infiltrait ensuite mes heures de veille. Procès, bagages éventrés sur le tarmac... Mes vêtements éparpillés partout et des couloirs d'aéroports sans fin où je courais vers des avions, sachant que je n'arriverais jamais à les prendre. La fièvre me causait quantité de rêves bizarres et des plus colorés. Émaillée de suée, où je me débattais en tous sens sans la moindre notion de l'heure. Mais lors de la dernière et pire de ces nuits, je vis ma mère, dans un rêve bref et mystérieux, qui me fit davantage l'impression d'une visite surnaturelle. J'étais dans la boutique de Hobby, ou pour être plus précis, dans un espace onirique, hanté, censé figurer une version sommaire de la boutique, lorsqu'elle est apparue tout à coup derrière moi, surgissant dans le reflet que me renvoyait un miroir. Son image me paralysa de bonheur. C'était elle, jusqu'au plus infime détail et jusqu'au dessin de ses taches de rousseur. Elle me souriait, plus belle et sans une ride, avec ses cheveux noirs et la drôle de manière qu'avait sa bouche de se relever vers le haut. Il ne s'agissait pas tant d'un rêve que d'une présence emplissant toute la pièce. Une force bien à elle, une altérité vivante. Et j'avais beau le souhaiter de toutes mes forces, je savais qu'il m'était impossible de me retourner, que la regarder directement signifiait violer les lois de son monde et du mien. Elle était venue à moi de la seule manière qu'elle connaissait, et nos yeux se croisèrent dans le miroir pendant un long moment immobile. Mais, juste au moment où elle semblait sur le point de parler, avec ce qui semblait être un mélange d'amusement, d'affection et d'exaspération, une vapeur ondula entre nous et je me réveillais.
Dans un sommeil que charmait ton image, je rêvais le bonheur ardent. Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore. Tu rayonnais comme un ciel quitter la terre pour m'enfuir avec toi vers la lumière. Les cieux pour nous entrouvraient leur nuit splendeur, heures inconnues, lueurs.
Nous étions après un rêve de Gabriel Fauré, non seulement après celui de Gabriel Fauré, mais aussi après celui de Théo, le héros du Chardonneret, dont je vous ai offert un petit extrait en préambule à l'émission de la semaine prochaine, au cours de laquelle, je vous l'ai dit tantôt, je recevrai Lorraine Pintal, qui viendra nous parler de ce livre, Le Chardonneret, et Marie-Christine Morat, que vous avez entendue et qui a lu ce livre pour nous, et plutôt d'ailleurs pour vous, chez Vues et Voix. Et je me retourne vers mon ami Christian Bergeron, qui est revenu en cette seconde partie. Je voudrais le préciser peut-être pour les gens qui prendraient l'émission en cours de route. Christian Bergeron est un poète sur mesure. Il est venu nous rendre visite. Il est venu visiter justement ces lieux ici, les studios, tout ça. Il est venu s'imprégner de cette ambiance-là. Et il va nous offrir un poème qu'il a écrit pour vous, pour nous, pour tous les gens qui composent Vues et Voix. Christian, ça a été facile ou difficile?
Ben, il y a des choses qui coulent de source et puis il y en a qui sont plus des écueils, on peut dire. ça va par à-coups.
On a une petite musique très délicieuse. Oui. Voulez-vous qu'on vous la mette en dessous pour...
C'est comme vous voulez.
Allez, on y va. Et ce sera à vous. Est-ce qu'il y a un titre à votre...
Oui, La moisson des mots.
Musique.
Octobre vient déposer en nous les fureurs inutiles, dessiner lentement un jour d'or et d'attente, un jour fait pour parler à voix basse. Il est temps, je veux qu'en moi coulent ces mots, cette rivière issue de tant de bouches et qui descend de ta rive à la mienne depuis l'aurore et même avant. Chaque jour est le jour d'une histoire qui commence, d'une voix lancée comme une étoile. Chaque nuit, on cultive l'oubli, plus précieux que la mort qui sommeille, pour qui sait qu'il était une fois. J'aimerais recueillir tout ce que tu m'as dit, tous ces mots qu'entre mes mains tu as remis sans savoir qui j'étais, sans savoir même si j'avais faim. Mais déjà tu regardes ailleurs, tu as les yeux sur novembre, car tu sais que dans le noir, ta voix brillera mieux encore.
Je ne sais pas pour vous, Jocelyne, mais voilà.
C'est stomaqué, vraiment. C'est magnifique.
Merci.
C'est très, très beau. Est-ce qu'on pourrait le bien l'écrire et l'afficher pour les bénévoles?
Tout cela est prévu.
Ça faisait partie du jeu, je pense.
C'est extraordinairement touchant. Je m'excuse. Honnêtement, là, j'ai l'œil qui perle et c'est très bien comme ça. Et Christian Bergeron, vraiment merci parce que Oui, c'est au-delà. C'est au-delà, au-delà, au-delà de tout ce que j'attendais. C'est de toute beauté. J'ai hâte de le relire. J'ai hâte de le réentendre. On le rediffusera d'ailleurs à cette émission-là. Et bien sûr, comme l'a dit Jocelyne Blouin, ce sera affiché ici. Ce sera envoyé dans vos infolettres. En tout cas,
oui,
on fera tout pour que ce poème soit relayé dans le plus d'endroits possible.
Ben,
Christian
merci,
Bergeron, je vous remercie infiniment. Je suis extrêmement touchée par ce que vous venez de faire. Vraiment.
Merci. Avec la musique, c'était très joli aussi.
Si vous voulez en savoir plus, vous avez un site internet, Christian Bergeron.
Ouais.
En tout cas, moi, quand je fais Christian Bergeron, je suis tombée sur quelque chose d'assez sympathique quand même.
J'ai un site pour mon travail. Bon, ouais. Je fais dans la rédaction et tout ça. J'ai un site personnel en développement, je dirais, christianbergeron.net.
D'accord.
Il n'y a pas grand-chose dessus encore.
Mais ça va venir. Et vous pourriez mettre celui-ci.
Oui, bien sûr, oui.
On vous enverra le lien. Comme ça, vous aurez en plus un lien sonore et les gens pourront entendre aussi sur votre site.
Super.
Ce serait une bonne idée.
Oui.
Oh, merci beaucoup. Je vous dis, je suis... Bon, mais là, il y a une émission qui continue, alors on y va.
Quelques nouveautés en rafale.
Et il s'avère que le premier titre que j'ai à vous proposer en rafale n'est pas du tout. Mais alors... du tout de la poésie, mes amis. En fait, on est carrément dans une bonne vieille vulgarité, mais drôle et sympathique. Ça s'appelle « La vieille qui voulait tuer le bon Dieu ». C'est de Nadine Monfils. On lui doit déjà la petite fêlée aux allumettes, que nous avons d'ailleurs aussi au SQLA. Et c'est son héroïne, c'est Mémé Cornemuse. Et alors, c'est une bonne femme totalement désagréable, complètement égoïste, qui est concierge dans un vieil immeuble. Et cette Mémé Cornemuse, qui est une fan de d'Annie Cordy et de Jean-Claude Van Damme, c'est l'archétype de la vieille pique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film celui qui a fait La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel, voilà. Bah, c'est un petit peu un genre Tati Daniel. Et il s'avère qu'un soir, Ginette, une de ses locataires, qui est une gaga de Lady Di, elle s'envoie en l'air dans un parking, c'est écrit comme ça dans le bouquin. Elle trompe son mari pour la première fois, donc tout va bien. Mais lorsqu'elle revient chez elle, elle découvre son mari, le cocu, vraiment, mais alors découpé en morceaux, avec le zizi dans le frigidaire. Voyez-vous, alors on y va. Quand je vous ai dit qu'on n'était plus du tout dans la poésie, mais c'est pour ça que j'aime cette émission, c'est qu'on saute pas non pas du coq à l'âne, mais d'un sujet et d'une ambiance à une autre. Alors ne ratez pas, si vous aimez les choses complètement déjantées, drôles, mais vraiment drôles, allez vous chercher ce livre, La vieille qui voulait tuer le bon Dieu, de Nadine Monfils. En un seul mot, une toute petite citation. Je suis allée à Lourdes avec ma femme. Il n'y a pas eu de miracle. Je suis revenue avec. Alors, dans un tout autre domaine, alors complètement, un roman ardu, une autofiction, largement inspiré de la vie de Doris Lessing, puisque je parle d'un livre de Doris Lessing. Ça s'appelle Le carnet d'or. Doris Lessing, qui, comme son héroïne d'ailleurs dans ce livre-là, Anna Wolf, a vécu en Afrique du Sud. Elle s'est engagée au Parti communiste. C'est un livre en faveur de l'émancipation de la femme et de ses droits, souvent bafoués, comme on le sait. Le carnet d'or tire son titre de l'ultime carnet ouvert par Anna, l'écrivaine en panne d'écriture. Et il sera le symbole d'un redémarrage de l'énergie bloquée. Je suis convaincue que c'est un livre qui vous intéresserait, Christian Bergeron. C'est aussi le monde de la guerre froide, parce qu'Anna fréquente les milieux communistes. Elle adhère au parti, elle en démissionne, elle reste dans la sphère toujours du parti. Et ce roman évoque de façon très réaliste les enjeux, les illusions, les déchirures de ces années sur fond d'indépendance africaine et de macartisme, de paranoïa généralisée et de prise de position codifiée. J'ai ici quelques critiques, entre autres la critique du Monde sortie en juin 2011, où on nous disait: roman politique, roman d'amour, roman social, Le carnet d'or est un magnifique éloge de l'art du roman, une réflexion pour aujourd'hui sur la force de la fiction, la place de l'individu et la persistance de l'art. J'avais aussi pour vous, alors complètement dans autre chose, Guy Latraverse, Et oui, le personnage du showbiz, Guy Latraverse et le showbiz québécois sont indissociables. Il vient d'écrire une biographie avec Daniel Lemay, qui a été journaliste à la presse pendant fort longtemps. Monsieur Guy Latraverse, qui ne cache rien de sa vie, notamment le fait qu'il ait été bipolaire. Et comme il l'a toujours dit, c'est grâce au fait que j'ai été bipolaire que j'ai fait finalement des choses que jamais personne n'aurait jamais osé, notamment avec Diane Dufresne. Diane Dufresne qui dit « J'ai peur d'être très émue en lisant le livre. Pour moi, il n'y a jamais rien de trop grand et pour lui non plus. » Donc si l'histoire du showbiz vous intéresse, allez vous chercher ce livre, Guy Latraverse, 50 ans de showbusiness québécois. Et c'est tout le temps qui me reste cette semaine. Je voudrais remercier mes invités, encore Christian Bergeron, merci infiniment pour votre poésie.
Merci.
Jocelyne Blouin, merci d'être venue, merci de lire chez Vues et Voix. Merci à Yannick Roberge. C'était Clotilde Seille au micro de Canal M à l'émission Un livre découvert. Bonne lecture tout le monde et à la semaine prochaine avec Lorraine Pintal, entre autres, et Marie-Christine Mora. Salut.